France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La menace du stade épidémique du coronavirus s'élève un peu plus en France. Le bilan hier soir a grimpé à 1784 cas, 33 morts. C'est la plus forte augmentation depuis le début de la contamination dans le pays. Et ce n'est d'ailleurs que le début, a estimé hier le président Emmanuel Macron après un sommet européen d'urgence organisé par visioconférence. Il y a été décidé de débloquer 25 milliards d'euros pour mieux coordonner la lutte à l'échelle de l'Europe. Car tous les pays membres de l'Union européenne sont désormais atteints. Et c'est toujours en Italie, où la situation inquiète le plus malgré le confinement de toute la population. 168 personnes de plus sont mortes hier. La barre des 10 000 personnes contaminées a été franchie. À l'inverse, en Chine, origine mondiale de cette épidémie, la situation semble s'améliorer. Les trois quarts des malades sont désormais guéris et le nombre de cas est plus faible chaque jour. Il y en a eu 24 hier. Aux États-Unis, où un millier de cas de coronavirus et 30 décès ont été recensés ces derniers jours, ce virus oblige les candidats de la primaire démocrate à annuler certains meetings, et notamment dans l'Ohio. Ces dernières heures, trois États américains votaient. C'est l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, qui consolide son avance sur Bernie Sanders. Il remporte a priori le Mississippi, le Missouri et le Michigan. C'est une décision rare que certains ont jugée surprenante. Le Conseil de sécurité de l'ONU approuve l'accord conclu entre les États-Unis et les talibans. Un accord signé il y a 2 semaines qui prévoit un retrait militaire américain en Afghanistan en échange d'une promesse des talibans de bannir tout acte de terrorisme, de participer également à des négociations avec le gouvernement de Kaboul. Le terrorisme, justement, et ses victimes. Une journée européenne leur est dédiée en ce 11 mars, journée adoptée cette année par la France. Emmanuel Macron présidera d'ailleurs cet après-midi à Paris la cérémonie nationale des victimes du terrorisme.
Chaque jour à 19h, la dispute. Arnaud Laporte.
Spectacle vivant, cinéma, musique, littérature et art plastique, la dispute passe tous les arts en revue, avec les meilleures critiques dans chaque domaine. Et vous pouvez aussi profiter du live tweet pour commenter en direct notre émission. Nous lisons chaque soir les messages les plus pertinents à l'antenne.
La dispute, du lundi au vendredi à 19h et sur franceculture.fr. Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
À Paris, Beyrouth ou Buenos Aires, partout les classes moyennes battent le pavé. Autrefois, elles rêvaient d'ascension sociale et d'enrichissement, mais leurs espoirs sont brisés et le pacte démocratique vacille. Moyen, médian, mais pas médiocre, le blues des classes moyennes, on en parle toute cette semaine.
Entendez-vous l'écho, de lundi à vendredi à 14h et sur France Culture.
C'était sur franceculture.fr. Nous sommes à la radio sur France Culture, il est 6h03. Nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio tous les jours de la semaine de 6h à 6h30, ou quand vous voulez, si vous passez par l'abonnement au podcast de l'émission. Tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma, et aujourd'hui, je reçois pour la première fois, et je suis particulièrement heureux de le recevoir, Martin Provost. Bonjour.
Bonjour.
Réalisateur populaire et de qualité, comme quoi ça existe. Il a réalisé entre autres Séraphine, ce film que j'adore, Sage-femme, et son dernier film sort aujourd'hui avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, pour ne parler que des femmes. Titre du film, La bonne épouse. À la réalisation, Vincent Abouchard, à la prise de son, Florent Bujon. Le réveil culturel de ce matin a été préparé avec la complicité de Corinne Amar et de Cyril Marchand.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal. D'une manière appliquée, sans fléchir. Eh ben oui, il y a bien eu une époque où l'on enseignait aux jeunes filles à devenir des épouses parfaites dans des écoles ménagères. Martin Provost, vous ne l'avez pas connu ça?
Un peu. Bon.
Un petit peu, je me souviens du guide de la bonne ménagère qu'il y avait dans le tiroir de la cuisine chez mes parents. Je me souviens que quand on était petit...
Non mais des livres, ça va. Mais,
ah bah des
mais
livres, oui, ma femme, bon, c'était...
des écoles des
écoles, si, parce que ma mère, quand j'étais petit, quand on partait en vacances, elle allait dans une école ménagère chercher une petite jeune fille pour s'occuper de nous pendant l'été. Donc ça, je m'en souvenais.
Et c'est à partir de ce souvenir que vous avez eu envie de parler de cette époque-là?
Non, ça m'est revenu après. Mais c'est une amie qui m'a raconté un jour sa vie, à 3 ans, en me disant comment elle avait décidé de faire une école ménagère alors qu'elle aurait pu faire des études parce qu'elle voulait pas être séparée de ses copines qui étaient toutes filles d'agriculteurs.
Votre film parle de ça, La Bonne Épouse, sauf que là, on est dans une période charnière.
En 67-68.
Oui, ça va bouger. Quoique... On en parlera hein, en fin d'émission, hein. Tout ce qui se passe dans le milieu du cinéma, après les Césars.
Vous êtes sûr?
Ah oui, vous êtes arrangé pour...
Je m'y attendais.
Non, mais oui, puisque c'est aussi un sujet d'actualité.
Mais en tout cas, on est dans l'époque.
Mesdemoiselles, un peu de silence, s'il vous plaît. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères.
Rotation de chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur.
Arrête!
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline.
Bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères.
Je veux te revoir.
Non !
Afin de ne pas céder à toutes ces tentations. En deux mots, mains occupées, mauvaises pensées chassées.
Zay, 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 zay. Zay, 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 zay.
La bonne épouse de mon invité ce matin, Martin Provost, sort aujourd'hui avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, et puis un sujet surtout. C'est un film à sujet, comme très souvent dans vos films, Martin Provost. Alors, une fois qu'on a vu ce film, parce que c'est une comédie, ça reste quand même une comédie, hein.
Oui, mais enfin une comédie dramatique.
Une comédie dramatique, avec des têtes d'affiche, mais une fois qu'on a vu ça, c'est-à-dire une fois qu'on a été immergé dans cette école pour demoiselles, pour les former à devenir des fées du logis, comme on disait à l'époque, j'ai voulu savoir à quoi ça ressemblait dans le réel. Est-ce que ça vraiment existait?
C'était comme ça.
C'était comme ça.
Ah, mais c'était comme ça. Il y a des, quand j'ai découvert cette histoire, je suis allé sur le site de l'INA, j'ai trouvé des petits films, je sais pas si vous y êtes allé, mais allez voir, c'est absolument extraordinaire. Et j'ai vu ce que c'était, et c'était très drôle et terrifiant. Et donc, tout ce que je raconte est vrai, il y a rien de faux, rien.
Absolument. On a exactement fait comme vous, Martin Provost. On a trouvé quelques archives assez troublantes, même si, avec le recul, c'est vrai, on peut en rire.
Rue de Bellême, le cours normal d'enseignement ménager de Paris a choisi la puériculture comme thème de son exposition 1957. Voici les travaux de ces jeunes filles, futures professeurs d'enseignement ménager. Pendant 2 ans, elles ont réuni et fort bien présenté, vous pouvez le voir, toute la documentation sur la première enfance. Recherches minutieuses, variées, elles les aideront à devenir de bons professeurs de puériculture. Des élèves des cours d'enseignement ménager, en voici. Elles sont 75 000 de 11 à 17 ans, dans les écoles communales, à Paris et dans la Seine. La croissance, l'alimentation, l'hygiène de bébé, pour elles, n'auront plus de secret. Et quand les jeunes filles apprennent la puériculture, les enfants se portent mieux, la mortalité diminue chez les tout-petits. Dans les cours d'enseignement ménager, on fait aussi de la cuisine, du repassage, du raccommodage, de la couture et de l'économie domestique, bien sûr.
Bonne épouse, c'est un métier comme un autre. On peut dire ça aussi, on peut voir les choses aussi comme ça, Martin Provost.
Un métier, oui. Enfin, en tout cas, il faut savoir que toutes ces tâches domestiques n'ont jamais été reconnues par les hommes, d'une certaine façon, parce qu'elles ne rapportent rien. Donc, c'est quand même toute une partie que les femmes doivent endosser, sans moufter, surtout à cette époque-là. Donc, tout ce qui va en découler après, et qui va arriver jusqu'à nos jours, est quand même assez légitime.
Alors, pour résumer votre film, La Bonne Épouse, vous avez eu l'idée géniale de situer l'action du film entre 67 et 68.
C'est-à-dire la rentrée 67 et ouais. Ça explose en 68.
Et ça explose en 68, c'est-à-dire l'année où tout ça va être remis en cause.
Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'en plus, le EMLF a été créé en 70 et que toutes les écoles ménagères se sont transformées, ont fermé ou se sont transformées en lycée agricole.
Et là, Juliette Binoche, elle joue le rôle d'une femme qui va prendre quand même le contrôle de sa destinée, même si c'était pas voulu. C'est ça qui est...
Oui, je pense pas que ce soit le contrôle soit le mot juste. Bah plutôt là. Qu'elle va lâcher. Et elle va plutôt, oui, elle va retrouver l'homme qu'elle aimait, qui avait été déporté pendant la guerre et qu'elle pensait mort, et, puisque son mari va mourir et elle va être obligée de se laisser emporter par ce qu'elle est profondément, par sa vraie nature, et donc lâcher le contrôle. C'est-à-dire que tout ce qu'elle apprend à ses élèves, elle va être obligée de d'y renoncer.
Parlons de cette école que vous avez située en Alsace. D'ailleurs, pourquoi?
Parce que moi, je suis breton d'origine, et je voulais pas qu'il y ait la mer. Ça me paraissait évident. Il fallait pas qu'il y ait d'ouverture sur l'horizon. Et l'Alsace, en plus, était après-guerre quand même un territoire assez encore isolé. On interdisait aux élèves à parler l'alsacien. Il y avait l'influence de la guerre qui était très 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 forte. Il y a eu beaucoup de juifs déportés qui étaient de l'Alsace. Et donc on a décidé avec Séverine Verba, avec qui j'écris le scénario, d'être là en fait. Et puis il y a les montagnes, et puis il y a la nature très belle, très forte. Ça nous paraissait, enfin moi c'était important pour moi qu'il y ait toute cette nature.
Qu'est-ce qui était important aussi dans votre esprit quand vous avez écrit ce film, Martin Prouveau, c'est de rappeler une période, c'est de mesurer tout le progrès au niveau sociétal, ou bien au contraire, c'est parce que vous avez l'impression que l'époque d'aujourd'hui est une époque qui est marquée encore par des injustices, qui est secouée par des mouvements comme le mouvement MeToo que vous avez décidé d'investir une fois de plus, parce que c'est pas la première fois que vous êtes le féministe du cinéma français.
C'était tout à fait inconscient de ma part au début. Quand on a commencé à écrire le scénario, l'affaire MeToo n'avait pas n'existait. Enfin, l'affaire Weinstein n'avait pas du tout explosé. On était en pleine écriture, donc c'était troublant de voir à quel point ce film-là devait exister. Et c'était un peu comme Séraphine d'ailleurs. C'est des choses qui me tombaient dessus et que je, avec lesquelles j'ai appris à comprendre ce qui se passe. Et donc c'est vrai qu'avec avec La Bonne Épouse, ça me paraissait important de rappeler d'où on vient, ce que c'était il y a 50 ans. Quand même, 50 ans, c'est beaucoup de temps. C'est à la moitié d'un siècle. Et en même temps, c'est pas terminé. Ça a commencé là, en 68-70, et on en voit encore la progression, et sans savoir où on va exactement.
L'écriture du scénario est une écriture très documentée, mais est-ce qu'on ira jusqu'à dire, Martin Prouveau, que par exemple les 7 piliers qu'enseigne cette école aux demoiselles pour devenir de bonnes épouses, des perles, les perles des ménagères, est-ce que les 7 piliers, c'est de la fiction, bien sûr?
Non. Pas vraiment.
Pilier numéro 1.
Après ça, c'est écrit, oui.
Vous vous souvenez un peu des 7 piliers?
J'espère.
Pilier numéro 1, la bonne épouse est avant tout la campagne de son mari, ce qui suppose oubli de soi, compréhension et bonne humeur.
Tout ça existe.
Pilier numéro 2, une véritable maîtresse de maison, se doit d'accomplir ses tâches quotidiennes, cuisine, repassage, raccommodage, ménage, dans une abnégation totale et sans jamais se plaindre.
Je peux pas vous dire exactement les origines, mais tout ça, on l'a lu.
Oh là là. Pilier numéro 3, être femme au foyer, c'est savoir tenir ses comptes dans un souci d'économie constante, savoir évoluer sans caprice les besoins de chacun, sans jamais mettre en avant les siens. Vous êtes une trésorière, pas une dépensière. Pilier numéro 4, être une femme au foyer, c'est être la gardienne de
toute la maisonnée,
de l'hygiène corporelle et ménagère de toute la maisonnée. Pilier numéro 5, première levée, dernière couchée. Pilier numéro 6,
bah c'est vrai.
La bonne ménagère s'interdit toute consommation d'alcool, se devant de toujours montrer l'exemple, surtout à ses enfants. En revanche, elle saura fermer les yeux et se montrer conciliante si son époux se laissait aller à ce mauvais penchant, ce qui arrive souvent. Et puis enfin, le pilier numéro 7.
Le devoir conjugal.
Le devoir conjugal. Voilà, c'est incroyable, hein, parce que, en plus, quand c'est incarné par Juliette Binoche qui dit à ses demoiselles un dernier devoir et à la bonne épouse ce que le travail est à l'homme. Parfois une joie, souvent une contrainte. Je vais parler du devoir conjugal. Avec le temps et en y mettant un peu de soi-même, on franchira cette épreuve aussi pénible qu'ingrate soit-elle, l'expérience vous apprendra qu'il en va de la bonne santé physique et morale de toute la famille.
Mais moi, je me souviens d'une amie à 30 ans, qui était une vieille dame à l'époque, qui m'avait dit, quand elle avait demandé à ses parents, à sa mère, de lui expliquer un peu, parce qu'elle allait se marier, ce qui allait se passer, parce qu'elle ne le savait pas, mais c'était avant 68, hein, sa mère lui avait répondu, en dessous de là, montrant les épaules, ça n'existe pas. On revient de loin.
Ouais. Comment ça s'est passé ce tournage avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky? Non mais c'était merveilleux bien sûr, parce que oui. vous leur offrez Martin Provost de non, très beaux rôles.
Les films ne sont pas comme ça, il y a des films plus difficiles que d'autres. Celui-là était particulièrement lumineux et joyeux, très difficile à faire pour moi.
Vous l'avez peut-être écrit avant Me Too, mais vous l'avez tourné alors qu'on était en plein Me Too.
En plein dedans.
Et donc,
vous savez, quand on fait un film, on travaille 18 heures par jour, c'est non-stop, les temps de tournage sont de plus en plus courts, et du coup, c'est le travail est colossal, donc on n'a pas vraiment le temps de réfléchir à tout ce qui se passe. Et après, une fois qu'on a tourné,
ou avant,
on commence à en parler.
Ou
oui, avant.
Avant,
non, il y avait les répétitions, il y avait tout le côté musical, mais c'est un travail de titan, ce film, pour
moi.
Ah
bah, parlons du côté musical du film « La bonne épouse ». Comme souvent avec vous, vous privilégiez la culture populaire, donc la variété populaire.
Oui, tout à fait. Il y avait Adamo, ça c'était très troublant, parce que quand j'ai envoyé le scénario à Yolande, parce que Yolande, le personnage de Yolande Gilberte, est une jeune fille qui n'a pas vieilli, elle écoute toujours Adamo, son amour de jeunesse, elle me dit, mais c'est incroyable Martin, Adamo c'est mon amour de jeunesse justement, tu sais que je l'ai rencontré, qu'on est très amis, qu'il vient voir tous mes films, qu'à chaque fois on se retrouve, et c'est vraiment mon grand amour.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige.
Bon ben, on avait un peu hésité entre Joe Dassin et Adamo, ben finalement, voilà. Ça, pour rester dans l'ambiance de votre film qui sort aujourd'hui, je le rappelle, La bonne épouse, Martin Provost. S'il fallait parler un peu de votre cinéma, c'est un cinéma tout à la fois populaire, qui a eu beaucoup de succès, vos films ont généralement beaucoup de succès.
Pas
de...
tous, non.
Oui, mais bon.
En même temps, oui, mais pas que.
Et en même temps, ce sont des films de qualité, on se souvient de Séraphine. Alors Séraphine, il a eu beaucoup de succès, hein. Sage-femme aussi, avec Deneuve et Catherine Fraud. Vous avez réalisé aussi un film sur Violette Leduc. Et puis même un autre film, Où va la nuit, sur une femme battue. Les femmes, le statut des femmes, l'émancipation des femmes sont souvent au centre de vos films. Martin Provost, pourquoi ?
Alors j'ai beaucoup réfléchi à ça, vous pensez bien, parce que
surtout
en ce moment, il fallait même que je prépare un peu mes réponses, et parce que c'était très très inconscient chez moi, et même avant de faire Séraphine, j'avais déjà fait deux films avec Carmen Maura, et même j'ai beaucoup écrit pour France Culture, et toujours des histoires avec des femmes, ma première pièce qui s'appelait Les Poupées, la première phrase c'était Dieu, Dieu, j'entends la voix de Dieu, pourquoi as-tu une voix de femme ? Donc ça veut dire qu'il y a un truc en moi qui s'exprime, mais je pense que j'ai une part féminine très très importante que j'ai appris à connaître et à découvrir et je dirais à travailler, qu'il a fallu que je travaille pour en être heureux et fier, et que c'est cette part-là qui s'exprime.
C'est votre part de féminité, comme chacun a sa part de féminité, ou c'est aussi un engagement, c'est votre envie d'être féministe et de défendre la cause des femmes ?
ça le devient. C'est-à-dire que ce qui était inconscient au début le devient. Évidemment, aujourd'hui, c'est très clair. Et je me souviens, d'ailleurs, pour Séraphine, ma première assistante à l'époque m'avait dit, mais pourquoi toi, t'es jamais dans un mouvement politique, tu t'engages pas? Et je lui avais répondu, bah, moi, quand je fais Séraphine, j'ai l'impression justement d'œuvrer pour ça. Et sans être d'un parti, mais je fais quelque chose qui est important. Et je vois qu'aujourd'hui, j'avais raison. Et que tous mes films, petit à petit, avec Violette Leduc, et Où va la nuit, qui est incroyable, une femme battue, qui assassine son mari, et qui voit son fils arriver, et qui sait pas comment se situer face à ce fils qui lui en veut aussi parce qu'elle a tué son père. Tout ça, c'est des sujets. La bonne épouse, maintenant, qui est un film beaucoup plus joyeux et beaucoup plus libre d'une certaine façon sur le constat de ces 50 ans passés depuis 68. Oui, ça me force à voir que je suis en effet un metteur en scène féministe.
Séraphine, ça a déjà 12 ans.
Oui.
Grand succès populaire en salle.
Oui, tout
alors,
à fait.
Vous avez frôlé ou atteint les 1 million de spectateurs, mais surtout, vous avez obtenu 7 César, meilleur film, meilleur scénario original, meilleure actrice pour Yolande Moreau. Bah oui. Vous êtes arrangé, Martin Provost, pour ne pas être présent à la cérémonie des Césars.
Je ne suis pas arrangé, j'ai pas été invité. On ne nous invite pas quand on n'a pas de film.
Et si on vous avait invité?
C'est très intéressant ce qui se passe. J'ai un petit point de vue là-dessus, évidemment. J'essaye de prendre de la hauteur, voilà. De ne pas me dire, il faut que je fasse partie d'un clan ou d'un autre clan, parce que c'est un peu ça qu'on vous demande aujourd'hui. On fait un peu tomber les têtes. C'est vrai que moi, Polanski a été un metteur en scène tellement important dans ma vie. Je me souviens du Couteau dans l'eau, du Bal des Vampires, du Pianiste, qui était un film immense, Rosemary's Baby, c'est extraordinaire. Je n'ai pas envie de condamner Roman Polanski, en tout cas pas le metteur en scène, non, j'ai pas envie de le juger. Après ça, l'homme, voilà, ce qu'il fait est tout à fait impardonnable. Si j'avais une fille de 13 ans, je pense que je serais absolument hostile à ce qu'est l'humain. Polanski. Maintenant, de l'autre côté, je me souviens quand j'ai vu le film de Céline Sciamma, j'ai été profondément bouleversé par son film. Et c'est vrai que cette prise de parole aussi, je la comprends. La domination masculine a œuvré depuis des décennies. Elle est en train de s'effriter. Elle est en train de se transformer. C'est très important. Les prises de parole sont fondamentales. Et on est en train de voir tout ça bouillonner, c'est ce qu'on appelle une révolution, on peut appeler ça une vraie révolution. Maintenant, je me dis, il faut prendre du recul, regarder ça de loin, avec de la hauteur, pour voir où on va. Un papillon, avant de sortir de sa chrysalide, il lui faut du temps, c'est difficile, c'est très douloureux, mais je pense qu'au bout, il y a un papillon, et je l'espère, et j'espère qu'on va arriver à une compréhension mutuelle entre hommes et femmes, un accord qui sera... plus équilibré, plus heureux, avec chacun sa part féminine, sa part masculine, travaillée, transformée et plus sereine.
Ce qui s'est passé cette année, ou même depuis le mouvement MeToo, a-t-il eu une influence dans votre travail, Martin Provost? Je veux dire, est-ce que ça vous a suffisamment marqué pour remettre en cause, y compris vous, qui êtes considéré comme un féministe, ou en tout cas un sympathisant de la cause féministe, est-ce que ça a changé un peu dans votre travail?
Je pense pas que ça ait changé mon travail, non, ça change rien, puisque je suis dans mon travail, et que je suis donc, en tant que metteur en scène, en prise directe avec ce qui se passe. Maintenant, en effet, ça me force à voir ma vie. Et voir que ce que j'ai commencé quand j'étais très jeune, tous les problèmes que j'ai eus, dont j'ai parlé dans mes films et aussi dans des livres, tout ça a du sens. Et que ça me fait aujourd'hui, j'ai 62 ans, à mon grand âge, voir que c'est toute ma vie, ou presque, que là je vais rentrer, je dirais, dans l'adolescence de la vieillesse, et que le travail, je l'ai fait, moi. Je suis peut-être en avance sur mon temps, parce que ce travail-là, j'ai dû le faire, oui. C'est un travail...
C'est-à-dire que vous faites, par exemple, attention à la parité de vos équipes techniques?
Je suis entouré de femmes. Mm-hmm. Je travaille avant tout avec des femmes. Mais j'ai des hommes aussi, dans mon chef-op est un homme. Mais j'ai toujours été entouré de femmes. J'ai toujours trouvé chez les femmes des relations très très douces, beaucoup plus fluides qu'avec les hommes. J'avais un père très autoritaire, qui était officier de marine, qui était un homme, un vrai. Et je m'entendais pas du tout avec lui, je m'entendais très très bien avec ma mère, et tout ça a fait, j'ai appris aussi à faire la paix avec mon père. Quand je dirige une équipe, je dirige 70 mecs, c'est moi le chef, et donc je suis dans sa lignée. mais je le fais différemment, je le fais dans une, avec une certaine douceur, j'espère un certain bonheur, et je vois qu'en tout cas avec moi, les acteurs, l'équipe, tout le monde est heureux.
Qu'est-ce qui se passe dans le monde du cinéma actuellement, après ce qu'on vient de vivre avec la séquence des Césars, quand vous parlez à vos, ben à vos collègues, aux comédiens, aux comédiennes, aux techniciens qui vous entourent, Martin Provost, vous dites quoi? Que c'est une cassure, comme on l'a très vite dit au lendemain de cette cérémonie des Césars, ou vous restez positif en disant c'est une prise de conscience et qu'il faut passer par là? Est-ce que vous avez l'impression...
Ah oui, moi c'est ce que je pense, c'est une prise de conscience, il faut passer par là.
Maintenant... Au-delà de cette prise de conscience, est-ce que le milieu est si partagé, brisé, disent certains.
Le milieu, j'aime pas ce mot-là. Le cinéma, parce qu'on parle plus de cinéma, on parle de milieu. Et c'est le cinéma qui est important, c'est pas le milieu.
Enfin, ceux qui font le cinéma.
Oui, oui, c'est ça. Ceux qui font le cinéma. Nous, par exemple, les metteurs en scène, c'est difficile pour nous. On n'en parle jamais.
Pourquoi?
Parce qu'on voit notre temps de tournage réduit, que ça, personne n'en parle. J'ai tourné Séraphine en 50 jours, j'ai tourné La Bonne Épouse en 39 jours. C'est rien. Parce que ça coûte de plus en plus cher, qu'il y a de plus en plus d'obligations, de contraintes. Donc, on fait des films, on travaille sur le scénario pendant un temps fou avec beaucoup d'intermédiaires, puis d'un seul coup on vous dit vous avez tant, alors paf on coupe, donc on abîme finalement ce qui a été fait souvent très intelligemment avec certains partenaires. Tout ça on n'en parle pas.
En vous entendant dire ça, Martin Provost, on a l'impression que vous suggérez qu'il y a des problèmes plus graves que ceux qui ont été posés par les femmes et la représentation des femmes.
Graves, oui bien sûr. Non, la représentation des femmes, enfin moi je suis quand même le premier entouré de femmes, je travaille pour des femmes, tous mes rôles sont féminins, donc pour moi il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Pour moi, j'entends dans mon cinéma, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit, j'ai toujours réussi à faire les films plus ou moins que je voulais, et c'était des films avec des femmes. Et chez moi, elles sont très bien servies, si je puis dire. Mmh. Les hommes sont minoritaires, donc voilà. Maintenant, je pense qu'en effet, il y a d'autres problèmes dans le cinéma et qu'il va falloir aborder. Il n'y a pas que ce problème-là. Il faut revenir toujours au cinéma.
Et réorganiser les Césars, la cérémonie des Césars, l'Académie des Césars.
Oui.
C'était nécessaire pour vous?
Oui, parce que c'est devenu un show. On ne parle plus de cinéma. On parle de moins en moins de cinéma. C'est un show. C'est fait pour faire de l'audimat.
Vous avez voté d'ailleurs pour les Césars?
Bien sûr que j'ai voté.
Est-ce que vos choix coïncidaient à peu près avec le palmarès ou pas?
Non, pas complètement. Non. Moi, j'ai adoré le film de Céline Sciamma. Ça m'a bouleversé. Donc j'ai voté pour ceux qui me semblaient importants pour moi.
Portrait de la jeune fille en feu.
C'est un très 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 beau film. Je trouve que c'est un film très courageux. C'est un film comme... Ça m'a fait un peu penser à Séraphine, je ne vous cache pas. Mmh. Parce que c'est un film qui parle aussi de peinture et d'amour. Et j'ai trouvé que c'était justement excessivement féminin et merveilleusement sensuel et beau. Et l'image est... C'est vrai, je comprends que je ne sais plus comment s'appelle le chef-op... Claire Maton, je crois, a eu le César, mais je trouve que c'était pas suffisant. Je trouve que ça aurait été, en effet, plus courageux de récompenser un film comme celui-là.
La Bonne Épouse, votre dernier film, Martin Provost, sort aujourd'hui. Merci beaucoup, Martin Provost. Je rappelle que votre dernier film, La Bonne Épouse, sort aujourd'hui avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lovski. Mais ça, on en a parlé. On va citer les hommes aussi. Vous voulez bien?
À moi?
Oui, vous voulez. Édouard Baird et
François Berléand qui incarne l'homme de demain.
Bon, c'est ça. Merci de se passer ce matin.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Les informations dans un instant, suivies par le journal des idées et les enjeux internationaux. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture. Bonne journée, à demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Agrippine, cellulite, les frustrés. À travers ses héroïnes, Claire Bretéché fut la première femme dessinatrice de bande dessinée à porter un regard plein d'autodérision et de tendresse sur la condition féminine depuis les années 60.
Je comprends rien aux hommes, j'ai jamais rien compris, mais enfin, je suis plus intéressée par les femmes, je trouve que c'est plus divers. Il y a une espèce de fraternitude, si vous voulez, dans mon attitude. Je sens les femmes comme une collectivité dont je fais partie.
À voix nue, Claire Bretéché par Claude Kiegeman, du lundi au vendredi à 20h et sur franceculture.fr.
France Culture présente Girls and Boys, un spectacle de Denis Kelly, mis en scène par Chloé Dabert. Pour sa première création à la comédie, Chloé Dabert renoue avec l'anglais Denis Kelly et son regard acide et drôle sur notre temps. Dans ce spectacle, Bénédicte Cerruti porte le monologue d'une femme qui raconte à ses enfants l'amour duquel ils sont nés et la débâcle qui s'ensuit. Un thriller psychologique et social explosif. Girls and Boys, du 11 au 20 mars, à l'atelier de la comédie, Centre dramatique national de Reims. Un partenariat France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Israël souhaite placer en quatorzaine les étrangers arrivant sur son territoire pour éviter la propagation du coronavirus. Mais est-ce faisable? Vous entendrez qu'à l'aéroport de Tel Aviv, rien ou presque n'est mis en place face aux étrangers qui arrivent, alors qu'en Italie, la population, elle, est toujours confinée. Mesure de protection également à l'Élysée, en France, car l'entourage de l'exécutif est touché par le virus. Nous ferons le point dans un instant. Et puis à l'heure d'un procès de deux policiers accusés de violence, une ONG publie ce matin un rapport sur le maintien de l'ordre et ses dérives en France. Explication à suivre. Les mesures annoncées pour contrer le coronavirus sont-elles vraiment appliquées? Nous allons ce matin en Israël, où une cinquantaine de cas seulement ont été détectés ces derniers jours, aucun mort. Le gouvernement veut toutefois protéger sa population et estime que toute personne entrant sur le pays, dans le territoire, toute personne doit être placée en confinement pour 14 jours, une mesure unique au monde, annoncée en début de semaine, qui ne se traduit toutefois pas à l'aéroport de Tel Aviv, devenu quasiment vide d'ailleurs, comme l'a constaté notre correspondant Frédéric Mettezo.
David va mettre des heures pour remplir son taxi collectif à destination de Jérusalem. D'habitude, il ne lui faut que quelques minutes, mais là, il n'y a personne. Le hall des arrivées est presque désert, aucun dispositif pour accueillir les arrivants, comme Azra, venant de Roumanie.
Les autorités nous laissent libres sans nous dire quoi faire. Les gens quittent l'aéroport sans contrôle, sans rien. On ne connaît pas les règles, on ne sait pas comment rentrer à la maison, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est pas organisé, c'est pas clair.
Son ami Dolev va filer directement chez lui sans faire les courses. Il a tout prévu pour manger.
On doit commander en ligne. Nos amis et nos familles vont nous apporter des provisions. Mais c'est fou ce qui se passe dans le monde en ce moment. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule.
Personne dans les boutiques ou dans les cafés. Les agents de change, les loueurs de voitures, les vendeurs de cartes SIM attendent longtemps leur premier client de la journée. Dans sa librairie, Lior déprime.
There is nobody. No one coming.
Il n'y a personne. Personne ne vient. On reste assis pendant des heures, tout seul. Il n'y a pas de travail.
Mais cette quarantaine obligatoire fait aussi des heureux, comme Galia, dont les deux fils Daniel et Darren arrivent du Canada.
On vient retrouver notre mère.
On doit être vigilant, bien sûr, mais ne pas trop paniquer. Et puis regarder le bon côté des choses. On va avoir plein de temps tous ensemble.
Notre mère va cuisiner pour nous. Personne n'égale la cuisine de notre mère.
Ces mesures exceptionnelles sont prévues pour durer 2 semaines.
4 semaines en revanche, 4 semaines de confinement pour tous les Italiens. Le pays est toujours placé en quarantaine jusqu'au 3 avril au plus tôt. Le nouveau coronavirus y sévit avec 168 morts supplémentaires en 24 heures, soit 631 au total. Plus de 10 000 personnes sont maintenant contaminées en Italie et les hôpitaux craignent de ne pas pouvoir soigner tout le monde. Les craintes sont d'ailleurs les mêmes en France où l'exécutif prépare les esprits à une accélération de cette épidémie, mais le président exclut toujours des mesures de confinement aussi drastiques qu'en Italie. Le dernier bilan officiel hier soir faisait état de 33 décès sur les 1784 cas confirmés. Parmi ces cas, il y a le ministre de la Culture, Franck Riester, le directeur du cabinet du président Emmanuel Macron, Patrick Stroda, est lui confiné à son domicile, il attend les résultats. Test négatif en revanche pour la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. L'Élysée et Matignon ont donc renforcé ces dernières heures les mesures de protection, tout en se voulant rassurant, Rosalie Lafarge.
À Matignon comme à l'Élysée, le message est le même. La continuité de l'État ne sera pas remise en cause par le Covid-19. Alors oui, on s'y lave plus les mains que d'habitude. On espace les chaises pendant les réunions. Réunions qu'on limite en nombre d'ailleurs. Mais on ne va pas non plus mettre les ministres ou le président sous cloche, insistent les conseillers. À l'Élysée, d'abord, on fait simplement plus attention. Les stylos ou dossiers touchés par Emmanuel Macron sont nettoyés ou changés. Les plus proches collaborateurs du président sont priés d'être vigilants, de moins aller au cinéma ou au théâtre, par exemple. Le cas de Patrick Strauda n'inquiète pas outre mesure, assure l'entourage du chef de l'État. Il a été largement anticipé. On limite les contacts et la présence extérieure. On fait plus le ménage. Mais pas question de dépister les 800 personnes qui travaillent à l'Élysée, précise-t-on au palais. D'ailleurs, le président lui-même n'a pas été testé parce qu'il ne présente aucun symptôme, avance un de ses conseillers. Même ambiance du côté de Matignon, où l'on dépeint un quotidien un peu particulier. Tout en insistant sur un point, les ministres ne sont pas en soi. La plupart sont des adultes en forme. Ils ne sont pas dans le cœur de cible, souligne un proche d'Édouard Philippe. Ils sont en fait, ajoute ce conseiller, comme les autres Français. Et à ce titre, on ne va pas plus les protéger que les autres Français.
Des Français qui sont appelés à voter ce dimanche, premier tour des élections municipales. Hier, un dernier débat était organisé entre les candidats à Paris. Étaient donc présents Rachida Dati pour Les Républicains, Agnès Buzyn de La République En Marche, David Béliard d'Europe Écologie Les Verts, Cédric Villani, anciennement En Marche, Daniel Simonet de La France Insoumise, Serge Federbuche, soutenu par le Rassemblement National, et Anne Hidalgo, la maire sortante, socialiste. Anne Hidalgo qui a justement demandé une forte mobilisation dimanche, malgré l'actualité.
Ça va bien se passer. Nous travaillons bien sûr les maires, la maire que je suis avec le ministre de l'Intérieur pour que l'organisation du scrutin se fasse dans les meilleures conditions possibles. Nous avons d'ailleurs reçu une circulaire du ministre et nous sommes en train de travailler aussi. Le message que je lance, c'est bien sûr aux électeurs et aux électrices, venez voter. C'est un moment démocratique extrêmement important et nous prenons toutes les précautions, mais aussi aux assesseurs, aux présidents de bureaux, parce que c'est très important aussi que les citoyens, c'est un grand exercice citoyen, participent à la tenue des bureaux et évidemment aussi au dépouillement du scrutin. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une situation de préparation d'un scrutin exceptionnel, mais avec des mesures de précaution exceptionnelles qui permettront à chacune et chacun de venir s'exprimer.
C'était Anne Hidalgo lors du débat sur France Télévisions hier, alors que le 8e candidat Marcel Campion n'était pas invité. Il avait saisi le tribunal administratif, mais la justice a débouté. Le roi des forains. Virulent réquisitoire hier au procès Fillon. Le procureur a réclamé de la prison ferme pour l'ancien Premier ministre François Fillon. Nous y reviendrons dans quelques minutes avec le journal des idées. Avant cela, allons aux assises de Paris où se poursuit le procès de deux policiers accusés de violence. Un procès en appel car ils avaient été acquittés en première instance pour ces faits qui remontent à 2013. Lors d'une intervention dans une cité de Villemomble en Seine-Saint-Denis, l'un des deux policiers avait tiré une grenade de désencerclement blessant une mère de famille. Hier, la cour a entendu les deux accusés, Florence Turm.
L'un et l'autre des deux policiers se disent persuadés d'avoir agi en état de légitime défense, confrontés à un groupe hostile, mais l'enquête administrative a conclu au non-respect des règles en vigueur pour l'un et à un usage disproportionné de la force pour l'autre, l'auteur du tir de LBD qui a touché l'un des deux jeunes interpellés. Et le président insiste sur les déclarations fluctuantes du second accusé. Il a fallu beaucoup de temps avant que vous n'expliquiez avoir jeté la grenade en l'air au lieu de la faire rouler au sol. À la barre, l'ancien policier de la BAC 93 se trouble, main crispée derrière le dos. Je vous rappelle que vous êtes devant une cour d'assises, assène le magistrat et que vous répondez d'un crime. Rétrospectivement, quand vous voyez tout ce qui s'est passé, vous ne vous dites pas que vous auriez pu agir autrement ? « Je referai la même chose », répond le policier. Il bute sur les mots. « J'aimerais juste qu'il n'y ait pas de conséquences, pas de personnes blessées. Je ne suis pas policier pour blesser des gens. Mon métier, ce n'est pas ça », ajoute-t-il, visiblement perdu face à la remise en question qu'on lui suggère. « Je referai la même chose, mais sans les conséquences. Ça a un côté puéril », intervient sèchement l'avocate générale. Le parquet avait fait appel de l'acquittement prononcé par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis et sa conviction semble acquise à lors des réquisitions.
Réquisitions qui auront lieu cet après-midi. Et par ailleurs, ce matin, l'ONG A4 publie un rapport sur ce thème. Maintien de l'ordre, à quel prix ? 200 pages, très documentées sur les évolutions des pratiques de maintien de l'ordre en France et sur leurs incidences sur les libertés. Un constat donc, ainsi que des recommandations. Écoutez à ce propos Marion Guémas, l'autrice de ce rapport.
La CAD demande l'interdiction de l'utilisation des lanceurs de balles de défense en toutes circonstances, donc pas uniquement dans des contextes de maintien de l'ordre. Et la demande de transparence, elle vise particulièrement les grenades GM2L, donc la grenade qui a remplacé la grenade GLIF-4 qui contenait d'une TNT. Donc par exemple, cette grenade, la nouvelle, on nous parle d'un composé pyrotechnique, mais dont on ne connaît pas précisément la composition. Et on est très inquiet en réalité sur le fait qu'elle soit tout aussi dangereuse que sa prédécesseur dont on avait justement demandé l'interdiction. La grenade de désencerclement également, on s'est rendu compte en tout cas en lisant des décisions de justice que la vitesse des petits plots qui sont projetés à l'occasion de la détonation est bien plus importante que ce que le ministère indique. Donc nous on veut qu'il y ait des études qui soient faites et qu'on examine en fait l'intérêt d'avoir ce type de d'armes qui encore une fois, il faut le rappeler, ne sont pas utilisées dans les autres pays européens. Pour les gaz lacrymogènes par exemple, on demande à ce qu'ils soient utilisés de manière bien plus modérée. Par exemple, c'est ce qui se fait en Belgique, où c'est une arme qui fait partie de l'arsenal des forces de l'ordre, mais qui est vraiment utilisée en dernier recours et pas de manière massive, comme on a pu le voir certains jours de manifestations en France.
C'était Marion Guémas de l'ONG ACAT. Vous pouvez retrouver son entretien en longueur sur notre site franceculture.fr. Il va pleuvoir encore ce mercredi sur le nord de la Loire. Attention au risque de crue sur l'ouest. Ailleurs, de belles éclaircies, avec 12 degrés à Lille ce matin, 13 à Paris et 16 à Montpellier. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées à 6h40. Comme promis, nous parlons du procès Fillon-Jacques. Puisqu'hier, le parquet national financier a requis 5 ans de prison, dont 2 ans ferme à l'encontre de François Fillon. 3 ans avec sursis contre son épouse dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon.
Oui, Aurore Gorius, qui a suivi le procès pour le site d'information Les Jours, cite les propos à la veille du réquisitoire de l'avocat de François Fillon. Je cite donc, je ne m'attendais pas à ce que le parquet soit touché par la grâce. Ils ont, depuis le début, démontré un entêtement à poursuivre ce dossier, parfois au-delà du raisonnable, et de dénoncer une hystérisation complète et par avance des réquisitions de mauvaise foi non balancées, sans doute excessives. Les puissants face aux juges, c'est le sujet de l'hebdomadaire Le 1 cette semaine. Eva Joly, juge d'instruction au pôle financier du parquet de Paris de 1990 à 2002 et aujourd'hui avocate, revient sur l'affaire Fillon et sur l'empressement supposé de la justice sur les soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon, trouvant extraordinaire les remarques critiquant la rapidité de cette procédure, comme s'il y avait un droit acquis à ce que la justice soit lente. Et elle souligne que si l'enquête préliminaire a été ouverte, c'est parce qu'il y a eu cet article dans le Canard enchaîné. On savait que les députés abusaient des diverses enveloppes à leur disposition, mais aucun juge ne pouvait se saisir. Seuls les parquets en ont la possibilité et aucun procureur qui rêve de rejoindre un jour la Cour de cassation n'aurait ouvert d'informations avant la publication de l'article. Eva Joly rappelle d'ailleurs qu'en matière de délinquance financière ou de corruption, les enquêtes sont presque toujours lancées par des journalistes d'investigation. Mais si la justice peut s'en prendre au petit pouvoir des politiques, elle est souvent impuissante face aux grandes entreprises. Dans les affaires financières, dit-elle, il y a un très haut niveau de compétences requis. Quand vous traitez des dossiers de régulation bancaire, il est décisif que ces sujets complexes vous soient familiers. Sinon, vous êtes le jouet des avocats des banques qui sont souvent 10 ou 15, accompagnés de collaborateurs, chacun ayant travaillé un aspect du dossier. Et elle déplore la pauvreté de l'institution judiciaire. On consacre en France 70 euros par an et par habitant à la justice et cela comprend aussi l'aide juridictionnelle, la prison et la protection des mineurs, c'est 2 fois moins que l'Allemagne. L'effectif des magistrats n'a jamais progressé dans notre pays en proportion de l'augmentation de la population et du nombre d'affaires, souligne Denis Salas, magistrat et président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Il évoque une étude récente sur le profil sociologique des juges, issus en majorité des classes sociales favorisées. Ce corps présente ainsi les mêmes caractéristiques d'homogénéité socioprofessionnelle que la haute fonction publique. Aujourd'hui, cependant, l'existence de voies d'accès ouvertes à d'autres professions est un facteur de démocratisation et les classes préparatoires au concours dites « égalité des chances » sont un levier de diversité. L'explosion des affaires politico-financières, le soutien de l'opinion et des médias aux petits juges, le syndicalisme judiciaire ou encore la coopération européenne favorisent leur émancipation. Une équipe de chercheurs dirigée par Christiane Besnier, ethnologue à l'Université Paris-Descartes, et Sharon Vale, spécialiste de droit international et des conflits armés, a assisté au procès lié au terrorisme djihadiste qui se sont tenus entre 2017 et 2019. Alors que les grands procès des attentats de 2015 et 2016 vont débuter avec celui de Charlie et de l'hypercachère en mai, ils relèvent une tension entre le contexte sécuritaire et l'audience où l'on revient à une justice plus ordinaire, voire plus apaisée, malgré le durcissement de la législation. Les deux universitaires s'en expliquent dans Le Monde. La temporalité des assises permet à la personne poursuivie de s'exprimer. Les avocats ne sont pas dans une posture politique, mais débattent de la qualification des faits et creusent le parcours de l'accusé. La présence des familles humanise ce moment, résume Christiane Besnier. À propos des revenants de Syrie, Sharon Vale rappelle que la pression des attentats avait justifié la criminalisation des départs en Syrie. Mais une fois devant la cour d'assises, cela n'avait plus beaucoup de sens. Les prévenus n'ont pas préparé d'attentat, comme dans le dossier Can Torsi, où les peines sont allées jusqu'à 28 ans. Et la loi justice préventive, liée à celle créant l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes, n'a pas poussé à alourdir les peines, plutôt rester dans une échelle correctionnelle, soit autour de 10 ans dans la plupart des cas. On juge des intentions, mais c'est aussi la force de l'audience aux assises. Elle permet de cerner la personnalité de l'accusé et de sentir son évolution afin d'évaluer sa dangerosité, conclut Christiane Besnier. 6h45 sur France Culture, l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Et aujourd'hui, avant de commencer votre entretien depuis Israël, vous vouliez d'abord revenir sur le sujet d'hier, la nouvelle constitution russe.
Oui, très rapidement, les enjeux internationaux sont, c'est vrai, tombés dans le panneau de la prédiction et n'ont pas vu venir le coup de théâtre hier à la Douma des parlementaires qui ont autorisé Vladimir Poutine à se présenter au-delà de la fin de son deuxième mandat, qui devait être le dernier. J'avais conclu en disant, nous verrons bien quelles sont ses réelles intentions. Personne ne pensait qu'il les manifesterait aussi vite. Donc voilà, je voulais en dire un mot ce matin.
Et ce matin, le programme, la place des partis arabes dans le jeu politique israélien.
Oui, les résultats des élections législatives du 2 mars n'ont pour l'instant pas permis de sortir de la crise politique en Israël, qui fait d'ailleurs beaucoup moins la une des journaux que les mesures prises face au coronavirus dont il était question dans le journal. Benjamin Netanyahou se pense le vainqueur, puisque le Likoud a remporté 36 sièges sur 120 à la Knesset, contre 33 à la formation bleu-bleu de Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major des armées. Mais malgré ses alliances avec les partis nationalistes et religieux, Benjamin Netanyahou n'est pas en mesure d'obtenir une majorité au Parlement. Pour Benny Gantz aussi, il est difficile de s'assurer une majorité nette, d'où l'avantage qu'il aurait à se rapprocher des députés arabes, les partis arabes qui s'étaient unis en une seule et même liste pour ces élections et ont remporté 15 sièges et semblent peser d'un poids politique inédit. Il est 7h46 à Tel Aviv, où vous êtes, Amélie Ferret, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse rattachée au Centre d'études des relations internationales de Sciences Po et au Centre français de recherche de Jérusalem. Amélie Ferret, qu'est-ce qui a empêché jusque-là Benny Gantz de prendre peut-être la décision qui lui permettrait de se démarquer face à Benjamin Netanyahou, accepter d'être soutenu par les pays arabes, par les partis arabes?
En septembre dernier, donc aux précédentes élections, les partis arabes avaient recommandé au président Rivlin le leader de Carole Lavanne, donc du parti bleu-blanc, Benny Gantz, mais ce dernier donc avait souhaité se distancier des partis arabes. Pourquoi ? Parce que Benny Gantz fait le calcul suivant, les réserves de voix là par rapport à Netanyahou, elles sont justement au Likoud, ce qui est un électorat qui est plutôt à droite. Et donc, pour pouvoir ratisser sur les terres de Netanyahou, il fallait aller à droite toutes et donc se distancier effectivement des partis arabes, puisque laisser entrer les Arabes au gouvernement, c'est une perspective que beaucoup d'Israéliens redoutent.
Et Benny Gantz ne veut sans doute pas donner raison à Benjamin Netanyahou, qui a utilisé la perspective de cette possible alliance pour le décrédibiliser auprès de l'électorat de droite. Amélie Ferret, s'il acceptait d'être soutenu par les pays arabes, dit-on, enfin c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il gouvernerait avec une majorité restreinte mais tenable, Benny Gantz. S'il acceptait, mais tous les partis arabes de la liste arabe sont-ils d'accord pour lui apporter leur soutien? Et en échange de quoi?
Oui, alors donc effectivement, il y a toujours une inconnue puisque les partis arabes, ils hésitent, et c'est historiquement, hein, entre la volonté donc de participer et d'influencer le jeu politique israélien ou la possibilité de s'isoler pour marquer leur dénonciation du système politique israélien. Donc aujourd'hui, il y a un seul membre de la liste arabe unie qui pourrait effectivement se démarquer face à la volonté donc de donner un soutien à Benny Gantz, c'est le parti Balad, qui est un parti séculier plutôt, qui prône donc le progressisme, une démocratie en Israël, mais une démocratie non juive, une démocratie donc qui ne reconnaît pas la religion. Et aux précédentes élections, donc ils avaient refusé de soutenir Gantz, et là il semblerait que effectivement ils vont soutenir Gantz, puisque le calcul qui est fait par Ayman Odeh, qui dirige la liste arabe unie, c'est de dire il faut sortir de cet isolement volontaire ou forcé dans lequel les Arabes ont été cantonnés, et il faut que justement les Arabes prennent pleinement part au jeu politique israélien en exerçant des fonctions gouvernementales.
Et leurs électeurs à ces partis arabes, qu'est-ce qu'ils en pensent, notamment la minorité palestinienne d'Israël, un tel rapprochement avec celui qui fut le chef de Tzal et a fait bombarder Gaza en 2012 et 2014, ils en disent quoi? Ils se prononcent?
Oui. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aux précédentes élections en septembre, on avait un siège de Carole Lavan qui avait été donné par des électeurs arabes.
Donc du parti bleu-blanc de Benny Gantz.
Voilà, exactement. Donc, ce qui n'est pas le cas à ces élections-ci, puisque tous les électeurs arabes qui avaient voté pour Benny Gantz ont préféré cette fois-ci de voter pour la liste arabe unie, parce que justement Benny Gantz avait vraiment fait le choix de tourner le dos à ces arabes. Mais il faut voir que effectivement, les Palestiniens d'Israël ou les Arabes israéliens, en fonction de la terminologie qu'on choisit, ne sont pas du tout opposés à Gantz. Eux, leur calcul, c'est vraiment de sortir de l'ère Netanyahou et de sortir d'un climat politique qui est extrêmement hostile à leur présence en Israël.
Alors les partis arabes s'étaient regroupés donc en une liste unie pour les élections législatives du 2 mars qui a obtenu 15 députés à la Knesset, 15 sur 120, c'est la première fois qu'ils en remportent autant. Est-ce que ce succès est à mettre au seul crédit de la liste commune, comme ils en avaient d'ailleurs constitué une déjà en 2015, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons plus structurelles?
Oui, alors en fait, déjà justement en 2015, ils avaient obtenu ce score, et il faut savoir que si on avait les mêmes taux de participation que chez l'électorat juif, on aurait 19 sièges pour la liste arabe unie. Donc c'est quand même une minorité qui représente 16% du corps électoral, donc qui est importante. Et ce succès aux élections, il s'explique par plusieurs facteurs. Effectivement, par rapport aux précédentes élections en avril, par le fait qu'il y a donc la joint list, que tous les des partis arabes se soient réunis, et également par le fait que les élections à répétition fonctionnent, contrairement à ce qu'un certain nombre de commentateurs avaient cru, comme un débat, enfin comme un facteur de politisation. C'est aussi un retour de bâton de cette politique d'incitation contre les Arabes, et là il y a vraiment une mobilisation de l'électorat arabe qui dit voilà, on en a marre, ça suffit, nous on existe et on veut jouer un rôle en Israël. Et enfin, dernier point, il y a un changement de communication, puisque les partis arabes, plutôt que de vraiment axer leur communication sur la question palestinienne, eux, ils ont fait le choix de dire, voilà, nous, ce qu'on veut, d'abord, c'est améliorer la condition, des conditions de vie des Arabes qui vivent en Israël.
En utilisant d'ailleurs beaucoup l'humour, on n'est plus dans le exactement discours un peu victimaire voilà, des Palestiniens écrasés. Amélie Ferret, il y a quelques années, Benjamin Netanyahou avait mis en garde contre un vote des Arabes en masse, et ça avait d'ailleurs marché, les Israéliens s'étaient beaucoup mobilisés. En septembre dernier aussi, Twitter avait effacé l'un de ses messages qui appelait les électeurs à tout faire pour éviter, je cite, un gouvernement de gauche avec les Arabes qui veulent nous détruire tous et permettre un Iran nucléaire qui nous tuera tous. En tout cas, les électeurs arabes semblent se mobiliser de plus en plus. Ce taux de participation en hausse, c'est intéressant de s'y arrêter deux minutes.
Oui, oui, complètement. Et en plus, ça montre aussi qu'il y a une évolution à l'intérieur de la communauté arabe qui vit en Israël, puisque les taux, par exemple, d'étudiants qui font un doctorat n'a jamais été aussi élevé. Le taux d'étudiants qui choisissent donc les sciences humaines par opposition à des métiers plus traditionnels pour la communauté arabe, eh ben, il est aussi en hausse. Donc on a également un changement, on va dire, de l'éthos politique de cette communauté arabe qui vit en Israël.
Et peut-être aussi une mobilisation spécifiquement. Enfin, on était quelques semaines après la présentation du plan dit de paix de Donald Trump pour le Proche-Orient, qui enterre un peu plus la solution à deux États. Est-ce que ça a contribué à mobiliser les électeurs, d'après vous ?
Complètement. Complètement. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, à mon avis, le vrai enjeu de ces élections, c'était justement le vote des partis arabes, le vote pour les partis arabes, puisque ce qui s'est passé avec la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale, la reconnaissance de l'annexion du Golan, et en plus le climat qui est très tendu avec la loi sur l'État-nation qui est passée, et le plan de paix, c'est de dire vous ne pouvez pas nous ignorer. Et le sort ou le destin des habitants du Triangle, donc ces habitants d'Israël, qui ont une citoyenneté israéliennes et qui sont palestiniens et pour lesquels le plan de paix prévoit en fait de leur enlever leur nationalité israélienne pour les donner à l'autorité palestinienne, eh bien il inquiète énormément la communauté arabe qui ne veut pas justement d'une déchéance de nationalité et qui ne veut pas d'un éventuel transfert de la population. Et pourquoi elle n'en veut pas ? Parce qu'ils sont bien conscients que d'un côté on a une citoyenneté israélienne avec des droits garantis, notamment la possibilité de voyager, alors que de l'autre, le plan de paix ne prévoit pas d'État palestinien et donc ils auront une sous-citoyenneté sans souveraineté réellement. Et ça c'est un motif d'inquiétude très important. Et donc c'est pour ça que les Arabes israéliens ont choisi cette fois-ci d'aller voter en masse pour un parti, enfin pour la liste arabe unie, afin de dire aux Israéliens, vous devez composer avec nous, nous sommes partie prenante du jeu politique israélien.
Et en quelques mots, Amélie Ferret, pourquoi les partis arabes ne se positionneraient pas d'ores et déjà dans une posture de principal groupe d'opposition, plutôt que pour l'instant d'essayer de jouer le jeu, de faire partie d'une coalition de gouvernement? Ce serait le principal groupe d'opposition, et même en ce qui concerne Eman Odeh, il dirigerait cette opposition, c'est aussi un rôle important en Israël.
C'est tout à fait. C'est un rôle important qui d'ailleurs terrifie une partie de la classe politique israélienne, parce que en tant que leader d'opposition, on a la possibilité, pas seulement la possibilité, le devoir de participer à certains nombre de réunions sur la sécurité d'Israël. Et donc pour le Likoud, de savoir que des Arabes siègent dans ce type de réunion, c'est terrible. Mais le fait est que pour Eman Odeh, le calcul, c'est vraiment d'éviter le plan de paix, d'éviter un gouvernement Netanyahou. Et pour ça, cela passe par le soutien d'un gouvernement pour Benny Gantz.
Merci beaucoup.
Effectivement.
Oui, merci beaucoup Amélie Ferret. On est obligé de conclure. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin depuis Tel Aviv. Et puis, en deux mots, Frédéric Mettezo, correspondant de Radio France à Jérusalem, m'a fait savoir hier que trois personnes avaient démissionné hier, qui étaient sur les listes et de Benny Gantz et liste de gauche alliée avec Gantz, justement parce que ils ne veulent pas de ce débat sur le soutien éventuel des partis arabes. Et Benny Gantz, lui, est victime aujourd'hui de menaces de mort. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheuse rattachée au Centre d'études des relations internationales de Sciences Po. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Ce n'est pas un chat comme les autres. Doué de parole et d'un esprit critique décapant dans l'Algérie du début du XXe siècle, Le chat du rabbin, adapté de la BD de Johann Sfar sur France Culture. Une fable colorée, truculente, qui nous fait découvrir la culture juive séfarade à travers une pléiade de personnages aussi attachants que farfelus.
Ça me permet de faire connaissance avec l'âne.
Il s'appelle Sfar.
Bah oui, Sfar, c'est arabe.
Mais n'importe quoi, mais Sfar, c'était un rabbin.
On le répète un peu pour voir.
Rabbin.
C'était un soufi.
Ah, tu l'as dit, rabbin.
Entrez dans la danse, Le chat du rabbin, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr.
Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Et c'est bien France Culture que vous écoutez à 6h57. Bon réveil à tous et bonjour Guillaume Erner.
Et bonjour et salut les Covid.
Et salut les, vous allez dire ça tous les jours, on disait les mini-cums quand j'étais petite moi. Et vous la trouvez étrange Guillaume, cette attitude vis-à-vis des malades du coronavirus.
Oui, à la une du journal La Croix, être chrétien au temps du Covid-19, manifester directement sa compassion, dit La Croix, ou éviter à tout prix une éventuelle contamination. Et j'ai l'impression que la question est tranchée, je ne vois aucune compassion dans les réactions à la maladie. Les bilans, malades et morts, sont accueillis comme des chiffres. Les personnalités touchées par la maladie sont accompagnées alors là, par des sarcasmes. Mmh. Et pire, sur les réseaux sociaux, pourquoi cette absence de compassion? Alors peut-être parce qu'on est trop occupé à s'en laver les mains, comme Pilate, mais avec beaucoup plus de savon. Peut-être aussi parce que tout le monde est convaincu, à tort à raison, que le coronavirus est une grippette, pas si méchante que ça, à moins que la réponse soit ailleurs, dans un mécanisme bien connu en psychologie sociale, le locus of control. Le locus of control, c'est la conviction profondément irrationnelle que vous êtes responsable de ce qui vous arrive. C'est irrationnel parce que en réalité, dans la vie, il y a de l'impondérable, des trains qui déraillent, des arbres qui tombent, des virus qui vous saisissent sans raison aucune. Mais pour le locus of control, cela ne fait rien, tout se passe comme si vous étiez responsable de tout, comme si le Covid-19 venait sanctionner votre comportement, votre absence de moralité ou bien vos turpitudes passées ou bien encore votre méchanceté congénitale. Cette application de la pensée magique aux causes des maladies est finalement bien rassurante. Elle signifie que si l'on se comporte de manière vertueuse, il ne nous arrivera rien, comme s'il existait une instance suprême de récompense ou de punition capable de sanctionner un comportement. Et même s'il n'existe, faut-il le préciser, rien de tel, ce locus of control réapparaît à chaque épidémie et devient la réponse finalement millénaire aux différentes épidémies, comme si finalement rien n'avait véritablement changé depuis le temps où les êtres humains contemplaient les épidémies de la peste au choléra en étant à la fois effrayés et interdits. Elle est là, notre incapacité à reconnaître que la vie et la mort peuvent ne pas avoir de sens, qu'il existe différentes épidémies, sauf, hélas, des épidémies de rationalité.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et on va revenir aujourd'hui sur le coronavirus, mobilisation scientifique, mais aussi leçon de l'histoire. On sera en compagnie d'Olivier Schwartz, il est directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur, et Patrick Zilberman, historien de la santé. Allez, 7h sur France Culture.